C'est le deuxième dimanche de Pâques. L'épisode des disciples d'Emmaüs, que nous connaissons bien et qui nous rafraîchit à chaque fois que on l'entend, on l'écoute. Et je me suis dit, cette fois-ci aussi, il faut que ça te rafraîchisse. Il faut qu'il soit nouveau. Alors, quand on lit les Écritures, on a besoin de les partager, et puis on a besoin de les lire comme si on les avait jamais lus. Alors je me suis dit, on va relire tout le chapitre 24 de Saint-Luc. Pas seulement cet épisode, mais en essayant de le voir situé entre une autre péricope et un autre épisode, un autre événement. Et ça, j'en ai été retourné. Ah, je me suis dit, ben ça, je ne l'ai jamais vu, mais alors jamais. Lire, écouter les Écritures. Qu'est-ce qui se passe juste avant et qu'est-ce qui se passe juste après? Pour mieux saisir ce qui se passe avec les disciples d'Emmaüs, qui font référence à ces événements. Juste avant, ce sont les femmes qui, de bon matin, montent au tombeau. Ils le disent d'ailleurs, les disciples, et ils le racontent à cet étranger qu'ils rencontrent sur la route et qui marche avec eux. Ils leur disent, oui, ben, les femmes sont allées au tombeau, grand matin. Mais au-delà de ce que les hommes racontent sur les femmes, écoutons ce qu'elles disent elles-mêmes, cet événement. Elles arrivent de grand matin, le sépulcre est ouvert. Surprise. Et le verset 4 du chapitre 24 de Saint-Luc nous dit, avec un terme grec, un verbe fondé sur le mot « aporie ». Elle se trouvait dans l'aporie du sépulcre. Vous savez, quand on les voit, ces sépulcres d'époque de Jésus en Terre Sainte, hein, c'est creusé dans un rocher, comme celui de Jésus. Et il y a une porte qu'en grec on peut appeler aporie. Du moins, Saint-Luc désigne cette entrée du sépulcre ou cette sortie telle qu'elle, une aporie. Elle se trouvait dans l'aporie, nous dit Saint-Luc. C'est dire que d'un côté elle voyait le soleil levant, du dimanche, du premier jour de la semaine, juste après le Shabbat. Mais cette lumière évoquait beaucoup de tristesse pour elle, parce que c'est leur vie, le deuil de Jésus, la mort de Jésus, et tout ce qui s'ensuit, toutes les interrogations sur leur présent et leur futur. Les disciples avaient bien compris, c'était verrouillé dans le cénacle, c'était dangereux. Quand elle se trouve dans cette aporie de la porte, d'un côté elle voit ce jour, de l'autre côté elle voit la pénombre du sépulcre, et elles ne comprennent pas. Pas de solution d'un côté, pas de solution de l'autre. Aporie. Et on va trouver cette aporie dans les deux autres épisodes relatés par Saint-Luc, dans le chapitre 24, on a les disciples d'Emmaüs qui ont bien entendu le récit des femmes. Ils disent sans doute une hallucination. Elles nous ont dit qu'il est vivant. Mais... ils quittent tout de même le groupe des disciples. Ils quittent l'église naissante, Jérusalem, et partent vers Emmaüs, enfin, de retour vers leur maison. Il y a Cléophas, et l'autre, on ne connaît pas son nom, son prénom. Ça veut dire que chacun d'entre nous est autorisé à se reconnaître dans cet autre disciple. Il se trouve dans une véritable aporie. Oui, nous avons vécu des choses extraordinairement fortes avec Jésus, homme à la parole forte et aux gestes forts, et il est mort. Et c'est le clergé qui l'a mis à mort. Et puis là, nous partons et nous discutons entre nous pour chercher des solutions, mais dove ci giriamo e ci voltiamo, comme disent les Italiens, ou qu'on se tourne dans notre aporie, on ne trouve pas de solution. Et on est triste. Autre aporie, le troisième épisode, les disciples sont verrouillés dans le cénacle, les onze, les apôtres, verrouillés dans le cénacle. À l'extérieur, il y a un vent de persécution contre nous. S'ils ont mis à mort Jésus, on va être mis à mort nous aussi. À l'intérieur, on se verrouille à clé parce qu'on se sent un peu plus sûr, very sûr, mais autant very que ce soit, enfin, on ne voit pas de solution non plus. Aporie. Et là, les femmes se trouvent toujours dans cette aporie de la porte du sépulcre. Surprise, parce qu'il n'est plus là, parce que... Et deux hommes, rayonnants, les rencontrent et leur demandent « Mais pourquoi est-ce que vous cherchez le vivant parmi les morts ?» D'un côté et de l'autre, la mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Ah oui. Et ces deux hommes, aux vêtements lumineux, leur disent, mais est-ce que vous vous rappelez ce qu'il vous disait quand il était en Galilée ? Et les femmes ouvrent leur cœur parce que la parole de Jésus avait beaucoup de sens pour eux. Elles l'ont suivi pour cela. Une parole qui ouvre au sens de la vie. Elles ont toujours été très sensibles, très sensibles. Et là, ces deux hommes disent, mais vous vous rappelez qu'il vous disait que le Fils de l'homme devra donner sa vie par amour. Il livrera sa vie. Il mourra sur une croix. Et le troisième jour sera proclamée la résurrection. Il se relèvera d'entre les morts. Il se manifestera vivant. Et les femmes font mémoire de cette parole. Et elles croient. Sans voir. Elles ne le voient pas. Elles croient. Sans voir. À cette parole. Et elles courent vers les disciples pour leur dire « Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Le sépulcre est vide, il est vivant. » Incroyable quand même. Hein ? Sans voir, elle croit en la parole qui leur a toujours parlé. Et elles se disent, mais cette parole, elle est vivante, elle nous a toujours donné du sens. Et c'est vrai, il l'a dit en Galilée. Et là, c'est le troisième jour. Il n'est plus dans le sépulcre. Et elles croient et elles annoncent la résurrection. Les disciples d'Emmaüs, Cléophas, un homme pour le moins, et ils font des récits d'hommes. Quelquefois, c'est désastreux, on le voit bien, hein, quand le clergé s'enferme entre un vieux célibataire. Enfin, j'ai rien contre les vieux, j'ai rien contre les célibataires, mais quand c'est seulement entre hommes, oh, il n'y a pas de souffle. Et donc, on voit bien... Ils cherchent des solutions, ils sont dans leur aporie et ils ne trouvent pas. Alors l'étranger, qu'ils ne reconnaissent pas, leur parle, leur explique toutes les Écritures et pourquoi il fallait que le Fils de l'homme donne sa vie jusqu'au bout pour manifester son amour et que la résurrection soit manifestée au troisième jour, comme dit la deuxième lecture. Ils sentent que leur cœur se remet à brûler. Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils ont encore besoin de quelque chose. J'entendais hier, aux infos, des scientifiques nous parler de l'hydrogène blanc. Ça m'a beaucoup frappé. Parce qu'ils disaient depuis le début de la planète, il y a de l'hydrogène blanc que l'on cherchait, hein. On a des moteurs à hydrogène et on a trouvé l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, l'hydrogène, je ne sais pas. Mais l'hydrogène blanc, c'est celui qui ne polluerait pas et celui qu'on n'aurait pas besoin de fabriquer par nous-mêmes avec des émissions de carbone. Et il disait, eh bien, il y a quelques années, ça s'est passé en Afrique, je ne me rappelle plus dans quel pays, il y avait cette émission d'hydrogène blanc que l'on ne connaissait pas, et un ouvrier qui fumait sa cigarette, explosion. Alors les scientifiques se sont posés sur la question, et ils ont trouvé, repéré cet hydrogène blanc, et pas seulement en Afrique, mais sur tous les continents, ce qui est une bonne nouvelle, semble-t-il, pour la planète. Une très bonne nouvelle. Mais je me disais, mais on vivait dans l'hydrogène blanc et on ne s'en rendait pas compte. Il a fallu qu'il y ait cette cigarette, cette étincelle. Et là, il se passe une étincelle avec les disciples d'Emmaüs. Il était déjà vivant, mais il ne le reconnaissait pas. Et Jésus, au milieu d'eux, fait le geste de la fracture du pain, pas comme nous y sommes habitués. Non, non. Mais dans tout son aspect fort, de geste fort. Ceci est mon corps, brisé pour vous, le geste. Et là, ils le reconnaissent. La parole avait déjà travaillé leur cœur. Mais là, l'étincelle. Et qu'est-ce qui va se passer dans le troisième épisode? Il raconte aux disciples enfermés ce qui s'est passé. Il y a un échange de la parole. De la parole de Jésus, de la parole de Jésus sur les Écritures, sur les prophètes, etc. Ils se partagent la parole. Et au moment, nous dit saint Luc, où ils se partagent la parole se manifeste devant eux, vivant. Et là, il leur dit, mais touchez mes plaies. Il voit ses plaies, c'est bien lui. Je crois qu'on avait besoin des apôtres et on a toujours besoin de leur témoignage à eux, ces hommes un peu endurcis. On avait besoin de savoir que ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination, qu'il y a quelque chose d'historique dans cette résurrection. C'est bien lui. Oui, c'est lui. Et là, ils le reconnaissent vivant. Mais ce qui traverse les trois épisodes du chapitre 24 de ce chapitre 24 de saint Luc, c'est qu'il partageait la parole. Et que c'est au moment où il partageait la parole qu'il se manifeste à eux. Et les femmes beaucoup plus sensibles n'ont pas besoin d'étincelles. Elles le reconnaissent vivant, il est là. Il est déjà là, il est vivant. Elles font l'expérience de la résurrection. Chaque fois que nous nous mettons en écoute de la parole et que nous la partageons, nous pouvons expérimenter la résurrection, la vie, dans nos groupes bibliques, dans nos groupes de liturgiques, dans les familles, les villages où il n'y a plus de prêtres, où il n'y a plus de célébration de l'Eucharistie. Il est déjà vivant, mais il est un peu sensible à cela, qui accueille et partage la parole. Alors c'est une expérience du ressuscité qui est déjà vivant, comme disent les Écritures d'aujourd'hui, avant la création du monde et dans la création, il est déjà là. La parole suffit. La parole suffit pour être partagée. Mais quelquefois, il y a besoin d'une étincelle pour... Et là, on a ce geste eucharistique, la fraction du pain. Ceci est mon corps. Et alors, on voit la béance dont on peut être témoin déjà en écoutant la parole. Et on avait besoin d'une certitude de ne pas être dans l'illusion. On l'a eu grâce à ces apôtres endurcis. Ils l'ont reconnu. C'était lui. Mais lui, vraiment lui, qui a manger avec eux, qui a partagé le repas avec eux. Mais comme c'est beau, même s'il n'y avait plus d'église, même s'il n'y avait plus de lieu, même s'il n'y avait plus de prêtre, la parole partagée nous donne de vivre l'expérience de la résurrection et de la partager avec les autres et de leur proposer une sortie, une béance de vie dans toutes les apories de nos vies. Que c'est beau! Mais à nous d'en faire l'expérience quotidienne. Alors oui, les chrétiens seront témoins, pas besoin d'être apôtres, mais témoins de la résurrection comme les femmes. Et la question ne se posera plus. Le sens leur sera de nouveau donné à nous de croire sur la base de la parole et la vie Nous la verrons à l'œuvre, la vie du ressuscité.